Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. Tous les soirs, une heure de conversation tranquille avec les artistes. Ce soir, Franck Beauvais.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, pépé.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Franck Beauvais.
Si la place du spectateur, c'est la place du mort, alors la place du vivant, c'est laquelle ? Pendant plusieurs mois de 2016, tandis que le gouvernement français vote l'état d'urgence, vous visionnez 4 à 5 films par journée de 18 heures que votre solitude extrême vous laisse le temps d'organiser à votre guise. Dans cet endroit, petit village alsacien, où vous êtes le regardeur obsessionnel, vous n'êtes que très rarement regardé. Quelques années plus tôt, votre père y mourait sous vos yeux alors que vous partagez pour la première fois de votre vie un film aimé. La libération d'une place dans une colocation parisienne vous ouvre bientôt l'horizon du départ. Vous triez, vous vous délestez de nombreux objets. L'élan vital retrouvant un peu de place, vous vous trouvez bientôt face à une photo de vous, jeune homme, et vous renouez en tout cas pour un temps avec la soif de vivre oubliée. De cette immense quantité de films, vous retenez des milliers de plans, autant d'images muettes et magiques qui, dialoguant avec votre texte et votre voix, témoignent de cette traversée. Ne croyez surtout pas que je hurle, sort en salle aujourd'hui Franck Beauvais. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Marie.
Il a été diffusé ce film notamment au Festival du Réel, c'était le film de clôture, et à la Berlinale, et il commence. C'est toujours bizarre d'écouter des extraits de films, mais là c'est encore plus bizarre d'écouter son image, mais on va quand même le faire comme ça.
J'ai 45 ans, je vis depuis 6 ans en appartement dans un minuscule et pittoresque village d'Alsace-Bossue, situé à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, au cœur du parc régional des Vosges du Nord. Je me suis séparé, il y a de cela 7 mois, du compagnon avec lequel nous avions décidé de nous installer là, dans le but de vivre à proximité de la nature et de nous loger plus confortablement que nos revenus ne nous l'autorisaient à Paris. Je connaissais le village pour y avoir précédemment tourné un court-métrage et parce que ma mère, après son remariage, s'est installée dans une commune voisine. Au moment de la rupture, je me retrouve sans permis de conduire dans ce bel endroit isolé où les allées et venues de chacun sont observées derrière les rideaux voilés des fenêtres, uniformément bordées de jardinières de géranium. Le dialecte alsacien est omniprésent, je n'entends que rarement parler français, un français à la grammaire agonisante, malmené par les germanismes. La première gare est à 30 km, il n'y a pas de réseau de bus, aucun commerce de proximité, pas même un distributeur de billets à moins de 2 heures de marche. L'exil loin de Paris est subi maintenant donc, ici, où la généreuse opulence de la nature parvient à dissimuler à l'œil non exercé la raideur parfois protestante, presque immanquablement droitière de ses habitants. La plupart ont grandi sur place. École, club de foot, mariage avec une fille du pays. Travail, famille, village.
Franck Beauvais, je disais en écoutant cette voix off du film « Ne croyez pas que je hurle » que je m'étonnais de retrouver avec autant de précision le montage d'images silencieuses et magiques dont je parlais tout à l'heure qui correspond à la voix. Alors peut-être on va commencer par parler de la voix puisqu'on est à la radio et à la rythmique de cet enregistrement, à la respiration que ça donne au montage des images et à la... au caractère quasiment hypnotique qui fait que c'est elle qui fait qu'on lâche pas. Parce que c'est une expérience, comment dire, exigeante. Mmh. Et en fait, elle devient possible parce que vous nous tenez. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'enregistrement de cette voix ?
Je peux vous parler de l'enregistrement de la voix, oui. C'était un enregistrement assez long et plutôt douloureux pour moi. D'une part, c'était un défi, de le faire moi-même. Le texte avait bien évidemment été écrit auparavant.
des doutes avaient été émis et j'étais le premier à en émettre sur ma capacité à lire ce texte. En même temps, compte tenu de l'aspect même du film, de qu'on soit dans une chronique, je me voyais mal prêter ces mots à quelqu'un d'autre pour les dire. Il me semblait qu'on perdait une cohérence si ça n'était pas ma voix, dont je ne suis pas particulièrement amoureux, mais je me suis dit, il faut l'assumer, assumons-la. Alors on a essayé beaucoup de choses, on a essayé, je crois, toute une semaine à enregistrer des bribes, bout par bout, et ensuite à monter et mixer tout ça. C'était un véritable désastre, une perte d'énergie de partie en partie, et oui, j'ai finalement dû admettre que l'idée première qui était de sortir le texte d'un coup, il allait falloir s'y coller. Donc on est reparti sur des sessions où je lisais tout le texte d'un coup, ce qui me semblait aussi en termes d'énergie et de dynamique plus logique.
C'est une performance qui est non négligeable. On sait pour qui doit enregistrer des lectures de texte de temps en temps ici, que c'est une manière d'être concentré qui est énergivore. Mais peut-être que ça avait du sens dans l'idée de nous prendre avec vous. Est-ce que vous diriez ça, Franck Beauvaster, au-delà de dire bon bah c'est si proche de moi ce que je raconte que je peux pas complètement me défiler, et en même temps, est-ce que c'est pas aussi une façon de nous garder très fort avec vous?
Bah, je l'espère. J'espère qu'à l'arrivée, c'est le cas. L'idée, c'était aussi de retrouver, enfin, de pouvoir transmettre la musicalité que j'entendais moi dans les mots que j'avais écrits, de pouvoir rendre compte de moments qui sont des déversements de flux de conscience, et plutôt qu'avoir aussi à diriger un comédien pour lui préciser les intentions, ou surtout encore une fois la musique du texte. Voilà, je me suis lancé, et encore une fois, c'était essayer d'être cohérent avec le projet. J'avais voulu trouver des mots et des phrases qui soient musicales, et quand je les écrivais, je les récitais à voix haute dans ma tête. Donc on y allait comme ça. Oui, et j'espère que ça ne perd pas le spectateur patient. Qui aura envie de s'y risquer.
Je dirais au contraire, je pense que ça crée la respiration du film, sans laquelle peut-être le film ne pourrait peut-être pas tenir debout. Il y a des moments de retour au noir qui correspondent avec comme des sortes de reprises de respiration. Qui a inspiré qui? Qui a décidé de ce rythme, Franck Beauvais?
Bah ça, c'est une collaboration étroite avec le monteur du film, Thomas Marchand, qui est un personnage prodigieux, par ailleurs un ami de très longue date avec qui je travaille depuis le début. On avait tout à fait conscience au bout d'un certain moment que cette suite d'images sans pause allait être difficile pour le spectateur, vu qu'il y avait à la fois l'image et le texte en continuelle interaction, et qu'il fallait des pauses à des moments dans la voix et à des moments à l'image. Et ça nous a beaucoup aidé pour préciser des choses sur l'écoulement du temps, pour préciser les ellipses dans le temps, puisque l'action se situe en 6 mois, mais on commence tout de même par l'évocation de la mort de mon père qui s'est déroulée, elle, 2 ans auparavant. On sentait qu'on avait besoin de chapitrer en quelque sorte, mais le plus discrètement possible. Je ne voulais pas de mots à l'image non plus. Le film, et donc on a opté pour quelques rares petits noirs à l'image et quelques pauses.
C'est des microsecondes de... parfois.
Oui, c'est ça. C'est très très bref. Et pareil, de très brèves pauses dans la voix. Parce qu'il fallait aussi que j'arrive au bout du texte, par ailleurs.
Est-ce que quand vous avez enfin lu ce texte de bout en bout, dont je précise d'ailleurs qu'il est publié chez Capricci en petit livre, on peut repartir avec après avoir vu le film, ou avant, en le lisant avant, vous avez eu quoi comme sensation physique, une fois cette performance produite, qui est quoi, 1h15 de lecture à peu près, Franck Beauvais, c'était quoi dans le corps?
un gros soulagement, une détente. Mais je dois avouer que cette détente-là était déjà présente à partir du moment même où on a commencé, le travail créatif, pour user d'un gros mot presque. Le jour où je suis entré en salle de montage avec Thomas, le fait de tous les jours aller travailler était déjà quelque chose qui se rapprochait d'une détente ou d'un mieux-être. Et comme c'était un travail de longue haleine, et qu'encore une fois, nous sommes des amis très 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 proches, la détente a commencé là. Mais c'est sûr que le texte est ce qu'on a traîné vraiment jusqu'à la fin. Et Thomas, le monteur, était présent à tous les enregistrements aussi, à mes côtés. Parce qu'on avait maquetté dans un premier temps, donc j'avais fait une petite maquette au dictaphone chez moi, qui nous a aidé sur le montage, et on a monté avec cette maquette. Ensuite, il a fallu...
Il faut quand même imaginer, donc pour les gens qui nous écoutent, que cette voix-là, dont on a entendu la litanie progressive, elle se jumelle avec une succession d'images que vous empruntez à plein de films, on va y venir, Franck Beauvais, mais ces images-là, elles sont à l'écran... Parfois, un quart de seconde, le temps de prononcer trois mots ou la moitié d'un mot. Donc, on imagine bien, en effet, qu'elle tient tout ça. Ça fait plusieurs fois que vous dites que Thomas Marchand, c'était un ami. C'est un film d'une très grande intimité, qui tend vers autre chose, mais qui est d'une très grande intimité. Est-ce qu'il fallait le faire avec des potes ?
Je crois que je n'ai jamais que travaillé avec des amis.
Ah oui ?
Il m'est très difficile d'envisager, compte tenu de l'implication extrême et souvent de la douleur que réclame le travail sur un film, c'est très difficile pour moi d'imaginer de travailler avec des inconnus ou avec des gens dont je partage pas les idées. Donc il y a un compagnonnage qui s'est établi au fil du temps, au fil des courts-métrages que j'ai pu faire ces 10-15 dernières années. Oui, j'ai besoin de l'amitié. Mes trois producteurs sont des amis, par ailleurs, avant d'être des producteurs. Ce qui permet aussi cette prise de risque, parce qu'on a commencé le film en n'étant pas sûr de ce que ça allait être. Est-ce que travailler un film en found footage, soit, mais est-ce qu'on peut tenir une heure? La question du spectateur, elle est quand même toujours là. Il s'agit pas de faire, de se lancer dans une dérive diariste, complètement onaniste. Si je ne m'adresse à personne, je vois pas l'intérêt. Donc ils m'ont accordé cette confiance-là. On savait pas si ça allait être un court, si ça allait être un long, si ça allait être une œuvre audiovisuelle, puisque c'est comme ça qu'elle a commencé à être produite. Et c'est de fil en aiguille que c'est devenu un long métrage. Et effectivement, la sélection au Forum à Berlin a fini par apposer le sceau final qui disait que c'était bien un film. Sans répondre à toutes les questions qui suivent, qui étaient un documentaire, un essai, une autofiction.
Ça vous va comme mot ? C'est un mot que vous aimez bien, le mot film ?
C'est un mot avec lequel je vis depuis très très longtemps. En tout cas, oui, je crois que je l'aime bien. Et puis, à fil dans film. Oui, film, c'est un mot que je prononce de nombreuses fois par jour, dès le réveil.
Ça fait combien de temps que vous l'aimez bien, ce mot-là ?
Alors si film égale cinéma, si... le cinéma ça a été, je pense, une fuite très tôt dans mon enfance. Comme je le dis un peu dans le film, je viens d'une banlieue assez grise, d'un milieu modeste, où l'accès à la culture en général et au film était extrêmement limité. Je viens d'un temps où il y avait trois chaînes nationales françaises. Donc moi j'ai grandi avec ça vient de Patrick Brion du cinéma de minuit, ça vient de Claude Jean-Philippe, ça vient d'une émission qui avait duré très très peu de temps mais qui sera inconcevable à la télévision française aujourd'hui. Alors il y avait cinéma mais dans les films même il y avait une émission qui s'appelait Cinéma sans visa. je ne sais plus si c'était sur Antenne 2 ou FR3 à l'époque, qui se permettait de passer des films sri-lankais à 20h30, sous-titrés. J'imagine que les audiences étaient désastreuses, mais il y avait une véritable volonté de donner de la visibilité à ce cinéma-là. Donc d'une part, ça m'a permis aussi de sortir du prisme cinéma anglo-saxon, cinéma français, qui sont des cinémas dominants partout. Et oui, un souvenir marquant là-dessus, je pense une scène canonique. Je me souviens d'un Noël très très petit, où on était chez ma grand-mère et où les enfants étaient relégués dans un coin devant la télé pendant que les adultes prenaient l'apéritif. Et j'ai commencé à regarder My Fair Lady de Georges Cukor, qui est un film très long, dont on a été obligé de m'extraire pour aller dîner. Donc il y a toujours eu un rapport de frustration d'aller les chercher parce que ils étaient pas là.
Les films.
Et je crois que cet amour-là a été entretenu longtemps par cette frustration, par le rêve sur des films qu'on souhaite voir mais qu'on ne pouvait pas voir du tout à l'époque. Aujourd'hui, tout a changé. Hein. On appuie sur un bouton, on est un peu malin et on met tout noir sur son ordinateur en 5 minutes. Moi, il y a des films que j'ai dû attendre 15 ou 20 ans avant de les voir.
Donc beaucoup de désir.
Les fantasmer, les désirer, absolument, absolument.
C'est marrant que vous parliez de cette scène enfant où on est obligé de vous arracher à un film aimé parce qu'il y a plein de petites images, en tout cas il y en a plusieurs pour avoir remarqué leur récurrence, dans Ne croyez surtout pas que je hurle, où une femme cache les yeux d'un enfant, empêche l'enfant de voir, et comme il est tant question de qui regarde quoi, à quelle fenêtre on a le droit, devant quel écran on peut se tenir. Est-ce que c'est une image, celle-ci, de la femme qui retire l'enfant à la vue, dont vous avez vous aussi remarqué la récurrence, Franck Beauvais ?
Non, je suis très heureux que vous me le fassiez remarquer, mais en l'occurrence...
Mais vous voyez des images comme ça ou pas, quand je vous le dis ?
Oui, je les vois dans le film. Dans mon parcours, ça a plutôt été l'inverse. Ce sont plutôt été des femmes qui m'ont amené aux images. Il y a beau eu avoir ce repas de Noël. Ma mère, par exemple, m'a toujours encouragé dans cette direction. J'ai le souvenir assez bouleversant d'une professeure de français en seconde, qui a changé vraiment ma vie.
En ouvrant cette fenêtre-là vers le cinéma?
Vers le cinéma. D'abord par la littérature, ensuite par la connexion qu'on avait tous les deux avec le cinéma. J'habitais dans ma toute petite ville, elle habitait à Strasbourg. Elle m'invitait le week-end et on allait au cinéma. Et en fin d'année, d'abord, elle m'a fait sortir de cette province parce qu'elle a découvert l'existence d'une option cinéma pas très loin de la maison, à un moment où les options cinéma au lycée étaient encore à un stade totalement expérimental. On passait pas l'épreuve au bac. Mais elle a expliqué à mes parents que cet endroit était peut-être ce qui pouvait me sauver de là où j'étais. Il fallait déjà me sauver à l'époque. Et le dernier jour de classe, cette femme prodigieuse, Bernadette, que je salue, qui a le même prénom que ma mère.
Coucou.
est arrivée avec un immense carton. Elle a fait son dernier cours et elle m'a appelé au moment où on sortait. Et m'a légué quelques ouvrages dont elle m'a dit pour commencer dans la vie ça peut être pas mal. Et voilà, il y avait Les Lettres à un jeune poète de Rilke, il y avait tout Tchekhov, il y avait Thomas Mann. Voilà, la transmission, ce que les autres m'ont transmis a toujours joué un rôle prépondérant dans mon existence, puis encore une fois d'où je viens, et dans un autre sens, pour moi, et puis dans le film, il y a un peu de ça aussi. J'ai très envie de transmettre et de donner aux autres le goût de découvrir ce que j'ai aimé.
L'image, c'est vraiment statutairement, structurellement, ontologiquement, si j'ose dire, que je suis exclu, que nous sommes tous exclus de l'image. Par conséquent, le rapport à l'image est un rapport terrible. C'est un rapport terrible. Et je me demande d'ailleurs si on ne devrait pas réexaminer toute l'iconologie, c'est-à-dire toute l'histoire de l'image, selon un parti pris, je dirais, plus terrifiant et plus violent, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y a une histoire de l'art qui est toujours une histoire très pacifiante, qui intègre l'image à la société, à la civilisation ou au sacré. Ou alors, simplement, on signale qu'il y a des marges un peu tératologiques et démoniaques de l'image, surtout dans l'iconographie religieuse. Mais c'est pas du tout comme ça que je le vois. C'est l'image est en soi quelque chose de violent et quelque chose de funèbre, n'est-ce pas, qui arrache à la vie en vous représentant la vie comme étant passée et en quelque sorte impossible. Alors, le texte, pas du tout. Pour moi, le texte, c'est vraiment ce qui est dans la vie vivante, dans la vie présente, dans la vie hors la mort, dans la parole en tant qu'elle se fait entendre, en tant que le corps est là, et donc j'opposerai un petit peu comme ça deux grandes allégories, n'est-ce pas ?
Roland Barthes, dans une archive qui date de 1977, il est au micro de Jean-Marie Benoît, dans les Entretiens avec, diffusé sur France Culture. Alors là, dans une économie comme ça de comparaison et de battement, Roland Barthes met le texte du côté de la vie vivante et l'image du côté de ce qui ne l'est pas. Franck Beauvais, dans ce film-là, ne croyez surtout pas que je hurle, il est beaucoup de questions de savoir où est la vie et où est l'absence de vie. Très fort. Alors vous la mettez où ? Du côté de l'image, du côté du texte ou ailleurs ?
Je pense que je ne vais pas me faire l'exégète de Barthes. Je n'oserais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je pense que les choses sont extrêmement bivalentes et que tout ça se passe dans le regard de celui qui voit et de celui qui lit. Comme je le dis à un moment dans le film, j'ai longtemps eu l'impression que les films étaient des fenêtres et soudainement... ils sont devenus des miroirs, enfin les images, même des films. Donc je pense qu'il peut y avoir un mouvement de projection pour le spectateur, enfin face à une icône justement ou à une toile. Évidemment, c'est un moment arrêté du passé, mais c'est aussi un moment qui fait travailler l'imaginaire. Donc vivant, je le vois pas aussi mortifère que ça.
Peut-être que ça bouge finalement en vous écoutant. Ce que vous dites surtout, Franck Beauvais, c'est que notre rapport aux images se modifie. Oui. Ça peut passer de fenêtre à écran, à miroir, à refenêtre par exemple, autre fenêtre.
Je pense que oui, tout dépend de notre état mental, psychique, de notre disponibilité au moment de la réception, à la fois des images et des textes. Hein, c'est la même chose. Il y a plein de films dans mon existence aux côtés desquels je suis passé très longtemps et que je redécouvre 15 ans après, au bon moment. Les textes, c'est la même chose. On m'a fait lire Louise Labbé à 14 ans. Quel est l'intérêt ? Enfin, j'ai juste retenu le nom et j'y reviens 25 ans après et c'est sidérant. Donc les choses sont pas arrêtées. Et notre subjectivité évolue en permanence avec nous et avec l'histoire de nos parcours, de nos existences. Il me semble.
Si on essaye de se mettre dans la position d'un récit très pratico-pratique de la manière dont s'est fabriqué ce film, il faut en revenir à des heures de visionnage. Mm-hmm. Comment sont-ils choisis, ces films-là, au départ ? Comment vous les vivez, ces heures de visionnage ? Et surtout, comment sont-ils découpés ? Parce que c'est l'un des actes fondateurs de Ne croyez surtout pas que je hurle.
Alors, ils sont visionnés avec... dans un unique souci, déjà qui est un souci de plaisir de spectateur pour moi. Comme je le dis aussi dans le film, j'ai une petite tendance, et puis de toute façon j'avais pas trop le choix là où j'étais à télécharger un peu compulsivement et à vouloir toujours avoir à disposition une masse de films dans lesquels piocher. Alors soyons clairs, j'en essaye, j'arrive pas à rentrer dans l'univers où je m'en sens exclu. Oui, il y a des images qui m'excluent, il y a des propos qui m'excluent, il y a des cinéastes dont je me sens absolument pas ami d'emblée. Et après, c'est un plaisir qui peut être un plaisir strictement pictural. Parfois, c'est une narration qui m'emporte. Parfois, j'ai un grand goût pour la série B, pour ces films oubliés ou relégués dans les tréfonds de l'histoire du cinéma, au détour desquels quelques plans magiques surgissent. Je me dis, mais on va pas laisser perdre la beauté, ne serait-elle que fugace, de ce plan au milieu de ce giallo ou de ce film érotique japonais. Il faut en faire quelque chose.
Et vous reprenez le mot magique. C'est un mot que j'utilisais en introduction, parce que c'est vraiment l'effet que ça me fait, moi, ces petites images que vous avez isolées, comme des cartes magiques.
Ben, c'était, quand j'ai commencé à les extraire, oui, c'était l'idée, c'était trouver des images qui pouvaient déjà dire plus que ce qu'elles ne disaient, qui pouvaient être utilisées de façon symbolique, comme des métaphores, dont je savais qu'elles allaient pouvoir jouer en contrepoint avec le texte que j'écrirais, enfin, puisque j'écris le texte ultérieurement, en tout cas au choix des images. Et pour répondre plus précisément à la technique, donc voilà, j'ai vu ces films. L'idée du film est venue pendant le visionnage, et ensuite je les ai repris un par un sur mon ordinateur, et j'ai extrait, dans un premier temps tout seul, sans Thomas Marchand, donc j'ai extrait tout un corpus d'images que je voulais avoir à disposition une fois qu'on entamerait le travail. Mais après, je l'ai fait. Moi, j'ai pas du tout de formation de monteur. Je l'ai fait avec un logiciel que tout le monde connaît, qui s'appelle VLC. Donc, j'extrais mes images, mais c'est pas très précis. C'est très pratique, VLC, mais c'est pas très précis. On n'est pas à l'image près. Donc, au bout d'un moment, je suis arrivé voir Thomas avec je ne sais plus combien, 28 000 extraits. Je crois qu'on avait 65 heures au départ. Je lui ai dit, bon, on va les nettoyer déjà. On va les classer dans des chutiers thématiques et voir quel lexique on va pouvoir disposer. Ça me semblait extrêmement important. Et là, on a établi donc des chutiers thématiques qui parfois étaient extrêmement concrets. Animaux, sang, et d'autres fichiers qui étaient plus abstraits, qui étaient sur les notions d'angoisse, de violence.
Jusqu'à ce que le film trouve son vocabulaire pour sa propre langue.
Oui. En tout cas, ces images-là, on les a vues, revues. Ça a pris 5 mois. Il fallait que je connaisse les images à disposition pour me mettre à écrire le texte.
Mais comme des mots, enfin, c'est fou, d'un seul coup on se dit aussi, ce film-là qui procède par agencement de petits morceaux de film, c'est comme retrouver des petits morceaux de langage pour parler.
Oui, ce sont des éléments de langage de toute façon. Ce sont des segments de langage à l'intérieur de la grammaire filmique. Et c'était de prendre des segments de langage cinématographique et ensuite de les faire correspondre ou jouer, parce qu'il y a quand même une notion un peu ludique dans tout ça, avec le texte.
C'est important que vous le souligniez quand même, parce que tout à l'heure, on entendait l'introduction de votre film, Franck Beauvais, donc j'ai 45 ans, j'ai quitté un compagnon, enfin nous sommes quittés, je suis dans un endroit en Alsace où je suis très seule, etc. Mais le début de ce film, c'est aussi des machines à fabriquer des steaks hachés, des portraits qui se brûlent par les yeux et qui font que la distance, le décollement d'avec les choses, le petit jeu au sens de y a quelque chose qui joue, quoi, comme dans une mécanique, fait que c'est un peu drôle. Faudrait pas que ce soit trop facilement drôle, mais ça l'est quand même un peu.
Ben, j'espère que ça l'est un petit peu, parce que on est quand même globalement très souvent dans une dépression généralisée, enfin du monde et de l'état même dans lequel je suis au moment de cette chronique. Mais si je suis là, si je suis toujours en vie, si je souris, c'est que j'ai toujours un rapport. L'humour permet de vivre et de survivre, surtout en l'occurrence. Et il est absolument pas question de proposer encore une fois au spectateur qui est évidemment toujours là dans un coin de mon esprit, enfin en permanence, de lui proposer quelque chose d'extrêmement plombant.
Mais vous êtes méfié de la blague? Parce que c'est hyper facile qu'il y ait de la blague qui rentre entre des images et du texte dès lors qu'on a supprimé le son et la première signification du plan qu'on utilise.
Oui, on a quand on passait les chutiers, quand on testait les chutiers sur le déroulement du texte, parfois des choses surgissaient qu'on trouvait très drôles et on s'en méfiait. Alors oui, on peut dire Strasbourg et montrer un étal de boucherie avec des knacks. Je pense que ça fait sourire, c'est pas une mauvaise blague. Et puis encore une fois, voilà, il fallait équilibrer, trouver un dosage entre l'humour, les moments de tension, les moments d'apaisement, parce qu'il y en a tout de même aussi. La blague à tout prix, non. En revanche, entretenir en permanence un rapport de tension.
Et de distance.
Et de distance entre l'image et le texte. Ça, c'était la ligne directrice dès le départ, oui.
Il y a un moment d'apaisement, un moment qui devient un moment à la fois fenêtre et horizon dans ce que vous décrivez d'enfermement, qui n'est pas qu'un enfermement intime, ni un enfermement de village, mais aussi un contexte politique et social d'enfermement. C'est la libération d'une place. En utilisant ces mots-là, je me dis la libération d'une place dans une coloc à Paris et qui vous fait vous préparer à un déménagement.
Non, c'est pas immédiat. Mais oui, mais parce que peut-être ils n'ont pas le temps de trier. Parce que moi aussi, dans la dernière déménagement, j'étais en plein travail et j'ai tout accumulé comme ci, comme ça, encore par après, et j'ai encore beaucoup de travail à trier tout ça. Ce sont des gens qui sont très conservatrices, et alors, ils veulent encore le voir et le revoir et encore voir, et finalement, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Mais se contenter avec le moins possible. Je l'ai lu quelque part que l'homme le plus heureux, ça il faut retenir, hein, l'homme le plus heureux au monde, c'est ceux qui savent se passer d'un plus grand nombre de biens. Tout ça sont des menottes. Les richesses, les vêtements, tout, ça sont tous des menottes. Des entraves.
Culture par les temps qui courent. Marie Richeux avec Franck Beauvais.
Franck Beauvais, on entendait à l'instant un extrait d'un essai radiophonique de Juliette Bottillier à Nasmuc en 2011 qui s'appelait « Ce qui perd ». Et cette femme de nous parler des biens et des objets comme des menottes. Il y a un moment donné où l'horizon se dégage dans ce film, c'est quand il commence à se vider. C'est la préparation du déménagement, c'est la vente via Internet d'un stock. Est-ce que vous diriez que ça a été une manière de se délester, ce film-là ?
Oui. Oui, d'une grande... Oui, enfin, ce que j'explique sur le débat, des DVD, des livres... c'est un élan franciscain. François d'Assise, quoi. Enfin, essayons avec le moins. Je pense qu'arrive un moment dans la vie, même dans la vie de personnes comme moi, qui accumulent, parfois maladivement, encore une fois, comme tout vient du manque et de la frustration, je pense que moi, je me composais des bibliothèques en courant après les livres. Je n'avais pas du tout le temps de les lire, mais je voulais les avoir. Les films, ça a beaucoup été comme ça aussi. Et j'y revenais après. Et on se rend compte que tout ça, on s'enterre quelque part. On construit un tombeau. Certes, on choisit le capitonnage, mais on le construit. Et ça alourdit parce que déjà, ça empêche de bouger. Tout simplement, quand j'étais quand même dans ce grand appartement avec un grand grenier, du coup j'avais une surface, je sais pas, de 200 mètres carrés pour un loyer qui ici ne permettrait pas d'avoir une chambre de bonne, hein, soyons d'accord. Mais à un moment, du coup, ce tri devient essentiel et il est salvateur. Ça va, on se dit. Oui, j'aime énormément ce livre, mais vais-je vraiment le relire dans les 20 prochaines années? Autant le donner à quelqu'un qui ne l'a pas lu. Encore une fois, autant transmettre et faire passer ce qu'avait fait cette professeure de français. Essayer de continuer ces élans de transmission. Parce qu'effectivement, j'ai revendu des disques, mais j'ai donné aussi énormément de choses avec beaucoup de plaisir. Une fois que tout ça a été fait, on se dit oui, c'est possible. Là, je peux envisager d'aller vivre dans 15 mètres carrés et je m'en porte pas plus mal.
Parce que tout ça, c'est une mise en mouvement finalement. Une grande partie du film consiste à quitter l'immobilité, voire la mort, puisqu'il y a quand même ce souvenir que vous placez en préambule et dont vous auriez très bien pu faire l'économie, parce que finalement, ça arrive 3 ans avant, qui est la mort du père devant un film. Mais c'est quitter le canapé ou la couette ou que sais-je pour monter dans un camion avec des copains et aller vivre ailleurs et partir.
Oui. Absolument. Tenter de le faire, en tout cas. Essayer de repartir à l'aventure à 45 ans. Bon, encore une fois, je change pas de métier. Mais bon, je me délocalise. Je m'allège très sérieusement. Je me rends compte aussi que, encore une fois, mon identité, elle n'est pas constituée par ma bibliothèque ou ma vidéothèque. Ça, peut-être, je m'en rends compte à ce moment-là. Un peu tardivement.
En faisant un film, vous voulez dire ? Ou en déménageant ?
En déménageant. En déménageant. Le film, une fois fait, l'installation dans l'appartement parisien de 15 mètres carrés, actée, on se rend compte que la petite tendance à l'accumulation revient d'elle-même. Je lutte quand même encore contre. Mais on parle du désir de film, du désir de livre, c'est un désir d'objet aussi. Et je me raisonne beaucoup sur les questions de consommation. En général, j'ai envie que ça reste un acte de désir et que ce ne soit pas un acte de consommation pure et gratuit. C'est pour ça même que tous ces films que j'ai vus, j'étais quand même. Alors oui, il y a de l'admiration, je m'en nourris. Mais au bout d'un moment, je me dis c'est stérile, c'est uniquement pour ton plaisir. À toi, ça ne sert à rien, en fait. Enfin, juste pas penser à autre chose. Et tu consommes. Donc, pour m'autoriser à continuer à consommer au moins les films, encore une fois, c'était pas par le biais de l'argent que j'en faisais l'acquisition. Donc, une consommation tout de même que je pouvais m'autoriser. Je me suis dit qu'il était nécessaire de recycler ça. De recycler cette consommation pour tenter d'en faire quelque chose d'autre à partir de tout ce que j'avais ingéré.
Et si on reprend ce mot de recyclage, l'idée c'est d'avoir une nouvelle vie à des choses qui ont déjà existé, premièrement et deuxièmement. Franck Beauvais, puisque je parlais du récit de l'épisode de la mort de votre père devant un film, à quel moment vous vous êtes dit que ce film-là, ne croyez surtout pas que je hurle, il serait impossible à faire sans raconter ça?
Je pense, dès le départ de l'idée de la chronique, je me suis dit que le petit extrait qu'on a passé au début, qui est le début du film, où, qui est une exposition, il faut que j'explique qui je suis, où je suis, et avant de démarrer dans la chronique de ces 6 mois, je savais que ma vie elle était colorée de façon assez grise par cet événement qui s'était produit dans l'appartement, et je me retrouvais
plus que
seul,
la rupture amoureuse entre nous.
Bien plus que la rupture amoureuse, bien sûr. Il y avait cette présence de la mort, ce fantôme d'un père dont j'ai jamais été très très proche. Mais la question au moment de la rédaction du texte, pour tout vous dire, j'ai commencé par cette exposition qu'on a entendue, j'ai attaqué la chronique et je savais que je ne pouvais pas ne pas parler de la mort de mon père, parce que ça teintait tout le quotidien. En revanche, j'ai tout écrit et j'ai gardé ce récit-là pour la fin, parce qu'il était particulièrement dur à aborder pour moi. J'ai découvert à ce moment-là qu'on pouvait pleurer en voyant des films, on pouvait pleurer en lisant des livres, mais j'ignorais qu'on pouvait pleurer en écrivant ses propres mots. Mais ça a été le cas. C'était assez douloureux et cathartique quand même. J'ai repoussé ça jusqu'au dernier moment, et c'est le seul bouleversement qu'on a fait dans le texte, c'était de se dire, très vite, je me suis dit, il faut qu'il soit entre cette exposition et le début de la chronique, puisqu'il teinte tout ce qui suit.
Probablement quand même, qui plus est, parce qu'il meurt en regardant un film, Franck Beauvais.
Il meurt en regardant un film, effectivement, c'est... Il y a un trauma qui s'installe et qui moi-même me ramène immédiatement à une peur de mourir. Enfin, pendant très très longtemps, j'étais dans ce canapé et je voyais des films avec l'angoisse de mourir à mon tour devant un film. Donc là, il y a vraiment un lien qui était très nouveau entre mon rapport aux images, les films que je voyais. Il n'y avait jamais eu la mort entre. Et là, c'était impossible de se débarrasser de ça et de cette peur. Genre, mais si mon père meurt devant un film, alors que le cinéma ne l'a jamais intéressé, et moi qui passe plus de la moitié de mon temps devant des films, j'ai quand même une chance. J'ai quand même une chance que ça m'arrive aussi. Et bon, le fait d'y réfléchir, d'écrire, ça a quand même, ça guérit un peu de ces angoisses-là. Mais il fallait que ce soit là, je crois.
Les états dépressifs sont des manifestations très, très riches, très variées.
Vous avez l'air de bien les connaître.
Oh oui, mais de toute façon, moi, oui, je connais bien, mais par expérience personnelle, pour voir des gens, il y a de plus en plus de dépressifs. Enfin, c'est normal. C'est une des choses que je voulais tenter de mettre à jour aussi, c'est que la dépression n'a pas du tout des causes psychologiques, à mon avis. Il y a un système de valeurs, un système social, qui clairement, l'efficacité économique et le potentiel érotique diminuant, inéluctablement avec l'âge, fait qu'on est forcément guetté par une dépression à un moment ou à un autre. Ça me paraît absolument inévitable. Enfin, il n'y a que des dépressifs ou des futurs dépressifs. Mmh. Et aucune psychothérapie n'y changera rien.
Bien fidèle, comme un ange, un ami, elle paraît puis disparaît dans la nuit. N'aie pas peur de l'ombre, laisse-la s'allonger, légère à tes côtés, regarde-la danser. Obscurité, tu y verras cachées toutes sortes de nuances de tons inespérés. Qu'elle est déjà fui, diluée par la clarté du jour. Elle reviendra au détour de la nuit. Ne demande rien à l'ombre, ne demande rien à l'ombre. Dans la nuit profonde, ne sois pas effrayé. Ces géants impassibles, ces doubles apaisé à l'infini, laisse planer l'ombre silencieuse, évadée. Elle vibre à tes côtés, laisse-la t'envelopper. N'aie pas peur de l'ombre.
La voix de Françoise Breut, sans rien dévoiler, on peut dire Franck Beauvais, elle a une place aussi, Françoise Breut, dans votre film Ne croyez surtout pas que je hurle. Et juste avant, c'était celle de Michel Houellebecq, il y a pile 15 ans, au micro d'Alain Weinstein, qui parlait des états dépressifs, et qui, avant qu'on en vienne à cette question-là, surtout l'agençait avec un état de la société, une manière de considérer que, à un moment donné, plus personne ne pourra y échapper, puisque sorti de l'efficacité économique, sorti de l'efficacité érotique, on est tous de grands futurs dépressifs. Sur un ton complètement différent, vous conjuguez aussi votre propre état de mélancolie dans ce film-là à un état social et politique.
Absolument. Mais je le fais simplement à partir du moment où je décide de risquer de parler de moi ou de. C'est pas une tendance naturelle. Il a fallu que je me fasse violence pour dire je. Et où je mets sur la table, je me mets à nu et où je parle de ce qui se passe dans ma tête. Tout ça est quand même intimement lié avec les événements extérieurs. Ça n'en est pas forcément toujours la conséquence, mais ça l'est aussi. Et je crois que honnêtement, On vit dans une société qui est une société de la distraction, dont on essaie de détourner le regard en permanence, et c'est peut-être ce qui autorise certaines personnes à se sentir heureuses aujourd'hui. Moi, je suis désolé, quand je me promène dans la rue, quand je vois ce qui se passe autour de moi, le bonheur est un état auquel... je n'ai pas accès, qui même semble relever de... La jouissance du bonheur me semble relever de l'inconscience et presque de la bêtise.
En tout cas, ça rappelle que quelque chose du politique entre dans le corps et entre dans l'esprit, Franck Beauvais. C'est aussi ce que dit le texte que vous dites dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'étanchéité, en tout cas pas dans l'expérience que vous relatez.
Non, c'est très perméable. Enfin, les événements du Bataclan, à qui est-ce que ça ne parle pas? On avait tous des amis d'amis qui y étaient quand c'était pas des amis, et enfin ma génération, en tout cas, on aurait tous pu y être. Je ne veux pas céder à la peur, mais c'est un état morbide qui infuse, c'est un voile permanent sur le quotidien. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Et quand effectivement, pendant ces 6 mois, ce genre d'événements de désastres, de catastrophes s'accumulent. L'état intérieur, on devient en état d'urgence personnelle face à un état d'urgence qui est promulgué nationalement.
Oui, mais il y aura plein de gens pour considérer qu'il y a une frontière étanche entre tout ça, que les effondrements observés à la télévision ne se traduisent pas à l'intérieur. Il y aura plein de gens aussi pour dire que c'est une telle réalité, qu'il y a tellement d'intérieur qui s'effondre quand l'extérieur le fait.
Oui, ben je serais plutôt de ce côté-là. Et je pense que aussi la télévision, elle a une fonction de mise à distance, et qu'elle soulage de la culpabilité qu'on pourrait ressentir. Moi, je me sens responsable et coupable de plein de choses qui se déroulent dans le monde d'aujourd'hui. Au même titre, je me rends compte que nombre des spectateurs que j'ai pu croiser jusqu'à présent, je me sens tellement moins seul après ce film quand je vois les réactions des gens. D'une part, je m'étais jamais imaginé que autant de monde pouvait être dépressif et en plus l'admettre. Mais c'est vrai que beaucoup de gens sont venus me voir en me disant merci d'avoir mis un mot là-dessus, merci de dire ce que sont des crises d'angoisse.
Exactement, j'allais y venir, parce qu'on entendait Michel Houellebecq parler des états dépressifs et Alain Weinstein lui rétorquait « Ah, vous semblez bien les connaître ». Et moi, ça c'est une des choses que j'ai notées dans « Ne croyez surtout pas que je hurle », c'est la description vraiment au millimètre de ce que traverse le corps et l'esprit pendant une crise d'angoisse. C'est assez rare de le lire comme ça. C'est chirurgical.
Oui, je voulais être au plus près du ressenti du moment, peut-être aussi sur le découpage des phrases, enfin c'est des mots, mais je redécoupais comme si je devais tourner ça moi-même au cinéma, sans cette fois utiliser les images des autres. Enfin, donc je visualisais des flashs. Et puis, c'est des états, quand on se décide de les évoquer, on se retrouve facilement dedans, je pense. On retrouve le déroulé de la crise en elle-même. On guérit jamais. On guérit jamais, mais on peut se connaître mieux et on peut analyser ses symptômes, en avoir moins peur, et surtout s'en ouvrir aux autres et en parler avec les autres, communiquer ça, ça allège, on se sent moins seul. Moi, quand les gens viennent me dire je me sens moins seul après le spectacle du film, je me dis je sais pas ce que j'ai fait, mais ça me rend heureux.
C'est tout le monde, quand on est un artiste, surtout actuellement, je pense, depuis quelques années, voudrait qu'on soit un vrai monsieur. C'est-à-dire qu'on ait des rendez-vous, qu'on ait des choses à faire, qu'on se lève le matin, qu'il y ait...
Un agenda.
Un agenda. Voilà, je vous disais que je n'avais pas d'agenda. Heureusement que vous m'avez appelé hier, sinon je ne serais jamais venu. Et j'ai toujours peur de devenir directeur d'une petite entreprise qui serait mon propre art. Donc j'essaie toujours d'être le plus aberrant possible. C'est-à-dire que je ne sais pas me servir d'un ordinateur, je n'ouvre pas mon courrier, je n'ai pas d'agenda. Enfin, j'essaie toujours de garder... finalement, ce que j'ai désiré au départ, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans la vie réelle. Ce qui est très difficile, c'est que la seule activité raisonnable quand on est artiste, c'est de rester enfermé chez soi à regarder la télévision, ou à traîner, ou à dormir, en tout cas de se faire du souci. C'est-à-dire de ne rien avoir à faire, et d'être dans une sorte d'état d'attente et d'inquiétude. Et c'est le seul moment où j'ai vraiment bien travaillé, c'est quand, pendant une période longue, je ne fais rien. Mais c'est tellement dur, moralement, que moi aussi, j'ai une tendance à faire beaucoup d'expos, des projets de théâtre musical, je suis vaguement prof aux Beaux-Arts, donc d'avoir des fonctions. Et je sais que tout ça est simplement quelque chose pour m'occuper, parce que ce qui est vraiment important, c'est de ne rien faire.
C'est la voix de Christian Boltanski qu'on écoute pour terminer. Franck Beauvais, il était au micro d'Affinités électives sur France Culture en 2003. Est-ce que vous pouvez regarder a posteriori ces longs mois de canapé, de lit, couette, à regarder 4 à 5 films par jour, comme ce qu'il décrit, à savoir l'état d'inquiétude et d'attente nécessaire à toute création, ou est-ce que ce serait vraiment trop enjolivé l'affaire ?
Non, je pense que ça n'est pas l'enjolivé. Je pense que le rapport au temps dont il parle est essentiel. Moi, ça m'a rappelé un autre passage du livre de Yannick Enel, « Tiens, ferme ta couronne », qui dit à un moment, moi, quand j'ai un rendez-vous à 20h, c'est toute ma journée qui est foutue en l'air. C'est exactement comme ça que je le vis. L'obligation, qu'elle soit sociale ou si c'est un jour quelque chose à faire, c'est une paralysie totale et je ne me sens pas du tout disponible et perméable au travail, à l'imagination.
Et en même temps, il dit toute la souffrance que
C'est une souffrance. C'est une souffrance, mais combler le temps avec plein d'activités, c'est juste reculer pour mieux sauter, il me semble. Donc non, il faut parfois ne pas avoir peur d'être seul avec soi. Enfin, je pense que de toute façon, c'est la condition de l'artiste en général. Il faut pas se leurrer et apprendre à dompter, domestiquer cette solitude, à faire son allié dans le travail.
Voilà, à bon attendeur. Salut. Ne croyez surtout pas que je hurle. C'est le titre de votre film. Il est en salle dès aujourd'hui, Franck Beauvais. Et c'est aussi un livre publié aux éditions Capricci. Merci beaucoup.
Merci Marie.
Sans me donner la moindre chance, t'en vas pas comme ça, en ignorant mon existence. Tu ne peux pas me quitter.
À la prise de son, c'était Anthony Thomasson. Ce soir, à la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Lucie Riandet, Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre et Marianne Chassor. Par les temps qui courent, c'est aussi une page internet via franceculture.fr, des podcasts et des réécoutes via l'appli de Radio France. Ça me semble être le plus simple désormais. 22h, France Culture, le journal. Très belle soirée.
Tu es pour moi le seul amour, le seul au monde. Pour toujours, je t'ai juré fidélité. Je ne t'ai jamais trahi. Ce jour de ma vie, je t'en supplie. T'en vas pas comme ça. T'en vas pas comme ça. Je ne suis plus rien. seul monde.